Bonjour à toutes et à tous, il est midi en temps universel, 14h à Paris, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information.
Diane Berger.
Avec d'abord le journal à la une, l'Ukraine et ses alliés proposent à Moscou un cessez-le-feu complet de 30 jours à partir de lundi. Une annonce à l'occasion de la venue à Kiev de plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Nous serons en ligne dans un instant avec notre correspondante Emmanuelle Chaz. Et puis nous y reviendrons plus en détail après le journal avec notre invité, le spécialiste de la Russie, Jean de Glignasti. Drones, tirs d'artillerie et frappes de missiles, l'escalade militaire se poursuit entre l'Inde et le Pakistan. Les tensions sont encore montées d'un cran à la frontière entre les deux pays. Cela malgré les appels au calme de la population, de la communauté internationale. Et puis ce sont des négociations très discrètes mais cruciales qui s'ouvrent à Genève. Représentants chinois et américains se mettent autour de la table pour trouver une issue à la guerre commerciale.
RFI Midi.
Ensuite, après ce journal international, place à l'actualité sportive. Ce sera avec Christophe Diremzian. Nous irons aussi à Gusen, le camp de concentration nazi le plus meurtrier d'Autriche, tombé depuis dans l'oubli. Un projet de mémorial a été lancé. La chronique transport nous fera découvrir les conséquences de la politique douanière américaine sur le secteur automobile slovaque. Et puis on terminera avec la musique groove et engagée du collectif Afro Cluster à l'affiche ce week-end du festival Focus Wales au Pays de Galles. L'Ukraine et ses alliés proposent un cessez-le-feu complet de 30 jours à partir de lundi. Message envoyé à Moscou depuis Kiev aujourd'hui à l'occasion d'un sommet entre plusieurs dirigeants européens. Autour de la table, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, son homologue français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer, le polonais Donald Tusk et le chancelier allemand Friedrich Merz. On retrouve tout de suite en direct de Kiev notre correspondante Emmanuelle Chaz. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Emmanuel, après plus de 3 ans de guerre, l'Ukraine et ses partenaires européens espèrent donc cet arrêt des combats d'une durée d'un mois.
Oui, mais alors cette nouvelle proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours, c'est un principe sur lequel s'accordent l'Ukraine et ses alliés depuis 2 mois déjà sur proposition américaine, sauf que la Russie a jusqu'à présent refusé. Alors par cette visite des chefs d'État français, allemands, polonais et britanniques et cet échange dit positif avec le président Trump en ligne, le message d'unité est là et la réponse au défilé de Moscou du 9 mai est forte sur le volet politique et diplomatique. L'Ukraine n'est pas isolée sur la scène internationale et ses alliés montrent des dents avec le nouveau chancelier allemand qui, dans la lignée des décisions de son homologue britannique Keir Starmer, qui a imposé de nouvelles sanctions contre la Russie, entend augmenter la pression contre Moscou afin d'enrayer la machine de guerre. On a eu le président Macron qui a suggéré un échange direct entre Kiev et Moscou pour arriver à un cessez-le-feu, mais sur le terrain, malgré l'annonce de Moscou d'un court cessez-le-feu unilatéral autour du 9 mai, eh bien les attaques ont continué par centaines. Donc pour l'Ukraine, difficile de croire en la possibilité d'un arrêt des combats puisque son agresseur ne se plie pour l'instant à aucune injonction. Donc pour le moment, c'est une énième branche d'olivier qui est tendue à Moscou.
Emmanuelle Chaz en direct de Kiev pour RFI. Merci Emmanuelle. Et puis ajoutons que les dirigeants européens n'étaient pas tout à fait tout seuls. Ils ont échangé au téléphone avec Donald Trump, le président américain. Un appel qualifié de fructueux par la diplomatie ukrainienne. La confrontation militaire est encore montée d'un cran entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays voisins, rivaux depuis des décennies, deux puissances nucléaires qui ont donc intensifié dans la nuit de vendredi à samedi les opérations. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Diane, bonjour à tous.
Ce matin, le Pakistan a annoncé avoir riposté à des frappes quelques heures plus tôt de missiles indiens visant 3 de ses bases aériennes, dont l'une aux portes de la capitale Islamabad. Côté indien, on a confirmé avoir subi une série d'attaques pakistanaises, notamment de drones contre plusieurs cibles militaires dans le nord-ouest du pays.
Oui, la tension reste effectivement vive entre les deux pays, Diane, qui s'enfoncent dans une escalade dangereuse. Tôt ce matin, 2 explosions ont retenti à Islamabad et à Rawalpindi, la ville voisine qui abrite les état-major et les services de renseignement pakistanais. Quelques heures plus tard, l'Inde annonce à son tour des frappes sur son sol. 26 cibles auraient été visées, dont Srinagar, la principale ville du Cachemire indien. Chacun accuse l'autre d'avoir attaqué le premier. L'armée pakistanaise parle d'une stratégie œil pour œil. Et la communauté internationale s'inquiète de cette escalade entre les deux puissances nucléaires. Les États-Unis exhortent les deux rivaux à rétablir un dialogue direct pour éviter tout dérapage. La Chine, elle, hausse le ton ce samedi et appelle fermement les deux voisins à la retenue. Mais ces appels, Diane, ces appels au calme restent pour l'instant sans effet. Les violences provoquent aussi d'importants mouvements de population. Et autre conséquence directe de ces opérations en cours, l'espace aérien pakistanais est fermé pour 24 heures. Et une trentaine d'aéroports indiens dans le nord-ouest du pays resteront eux aussi fermés jusqu'à nouvel ordre.
Des explications signées Harim Lipold. Les frappes sont nombreuses également au Soudan. Plusieurs bombardements meurtriers ont été signalés ce samedi. Les secouristes annoncent que 14 membres d'une même famille ont été tués dans une attaque des forces de soutien rapide sur le camp d'Abou Chouk au Darfour. Des soignants recensent également 19 morts dans une autre frappe, toujours imputée au FSR, contre cette fois une prison au Kordofan Nord. Des bombardements qui se poursuivent également à Gaza, où la défense civile palestinienne annonce aujourd'hui la mort de 5 personnes dans une frappe aérienne israélienne qui a touché une tente abritant des déplacés. Les négociations ont commencé il y a 3 heures à Genève, dans un lieu caché des regards au bord du lac Léman. Des représentants chinois et américains sont assis autour d'une même table avec un objectif crucial, trouver une solution à leur guerre commerciale. Washington a mis en place des surtaxes de 145% sur les produits importés de Chine. Pékin a répliqué avec des mesures similaires. Alors hier, Donald Trump a esquissé un geste. Il a suggéré de baisser à 80% les droits de douane qu'il a lui-même imposés. On le rappelle, mais la Chine veut montrer qu'elle est en position de force, Nathanaël Vitran.
S'estimant victime d'une agression injuste, Pékin a joué la montre avant d'accepter de négocier. Le vice-premier ministre chinois qui fait le déplacement en Suisse a d'ailleurs tenu à préciser que ces discussions ont lieu à la demande des États-Unis. La Chine sait que le temps joue en sa faveur, que les États-Unis dépendent d'elle pour de nombreux produits et que la situation ne pourra qu'entraîner une inflation aussi forte qu'impopulaire dont les premiers effets ne vont pas tarder à se faire sentir pour le consommateur américain. Pour autant, Pékin ne peut pas se permettre non plus d'abandonner complètement le marché américain alors qu'elle y a exporté pour près de 440 milliards de dollars de produits en 2024 et qu'elle fait face à un ralentissement de sa croissance que les mesures de relance du Parti communiste chinois au pouvoir peinent à enrayer. Il ne faut pas s'attendre ce week-end à un grand accord commercial, a prévenu Scott Bessent, le ministre de l'économie qui représentera Washington. Reste que la pression monte alors que le délai que s'est fixé Donald Trump pour négocier avec les partenaires des États-Unis avant une reprise des nouvelles taxes douanières arrivent à expiration le 8 juillet.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI. 150 000 personnes ont passé la matinée confinées chez elles en Espagne. L'alerte est désormais levée, mais 5 municipalités de Catalogne ont été exposées à un nuage toxique de chlore provoqué par un incendie à l'aube sur un dépôt industriel au sud de Barcelone. Le nouveau pape Léon XIV souligne ce samedi le précieux héritage de dévouement total de son prédécesseur François. François qui avait tourné son pontificat autour de la question des plus démunis, les pauvres, les migrants. À ce sujet, Nicolas Roca, notre journaliste, s'est rendu dans un lieu héritier de cette politique, le palais Migliori, à 2 pas du Vatican, où sont hébergés de nombreux sans-abri.
Adossé à la place Saint-Pierre, sur un petit panneau, on peut lire « Sant'Egidio », du nom de cette communauté de fidèles catholiques engagés dans la lutte contre la pauvreté. Carlo Santoro est responsable du lieu devant lequel attendent des sans-abri.
Alors on avait vu que cette palais, il était vide. Donc on a pensé pourquoi pas utiliser pour les pauvres.
Il nous mène à travers les couloirs de ce palais où vivent 45 sans-abri. Un lieu offert par le Vatican puis inauguré par le pape François en 2019 qui offre aussi des repas aux personnes dans le besoin. Sarah nous donne le menu. Des pâtes au calamar, à la tomate que Rosa va déguster ce soir.
Ici j'ai tout, il ne me manque rien. Docteur, douche, sommeil, dîner, petit déjeuner, vêtements. Je passe mes journées dans les colonnades. Et à 21h, je vais me coucher comme les enfants.
Fan du pape François, elle espère voir son héritage se poursuivre.
Espérons qu'il soit aussi bon que le pape François.
Ici sont hébergés et nourris des Italiens, mais pas uniquement. Carlo Santoro.
Tous les immigrés qui ont essayé de venir en Europe et sont morts dans la Méditerranée, ils ont été une terrible perte pour l'humanité. Nous n'avons pas peur. Un nouveau pape qui veut oublier les pauvres. Les pauvres, maintenant, sont au centre de l'Église.
Du moins, ils sont une priorité de la communauté Sant'Egidio, parfois critiquée, notamment pour ses actions de médiation diplomatique par certaines branches plus conservatrices de l'Église catholique. Nicolas Roca, Rome, RFI.
C'est la fin de ce journal international, mais restez à notre écoute tout de suite, le journal des sports. Avec Christophe Diremzian, bonjour.
Bonjour Diane.
Football d'abord, suspense à tous les étages en Ligue 1 à l'approche de son dénouement. La 33e et avant-dernière journée ce samedi devrait permettre d'y voir un peu plus clair, notamment pour les places européennes.
On l'espère, hein. 6 clubs peuvent encore théoriquement les convoiter, ces places, et ils sont tous logés à la même enseigne aujourd'hui. Pas de calcul, tout le monde joue à la même heure, 19h, temps universel. Marseille, 2e, est en déplacement au Havre. Monaco reçoit Lyon. Nice est en visite à Rennes. Et Lille est partie à Brest. Le LOSC, à égalité de points avec les Niçois, mais aussi avec Strasbourg, qui joue à Angers, ne peut pas se permettre évidemment d'en lâcher des points face aux Brestois, qui ne jouent plus rien. Mais pas la peine de se polluer l'esprit avec les résultats des autres, il faut d'abord jouer, et bien jouer, rappelle le défenseur nordiste Thomas Meunier.
Tout le monde est convaincu qu'il y a autre chose à faire que de stresser, à se poser trop de questions, juste aller à 100%. Il faut pas commencer à trop penser, le fait que toutes les équipes jouent en même temps, se demander ce qui se passe à la mi-temps, etc. C'est pas des choses qui sont recommandables à partir du moment où on est sur le terrain. C'est pour faire le job, tout simplement. Et dans notre situation, il n'y a plus de calcul à faire. La situation est tellement serrée entre les clubs du top 6, top 7, que le principal ici, ce sera vraiment d'empocher la victoire, même si la manière et le résultat font toujours un bon combo.
Thomas Meunier, défenseur belge de Lille et ex-joueur du PSG, les champions de France de leur côté, en roue libre totalement ce soir à Montpellier, lanterne rouge déjà relégué. Saint-Etienne veut éviter de les accompagner en Ligue 2, mais ça passera déjà par une victoire impérative à Reims. En Allemagne, le Bayern Munich va étreiner son 34e titre de champion en recevant Mönchengladbach dans une atmosphère de fête, mais aussi avec la petite larme à l'œil, puisque ce sera la dernière apparition à domicile de la légende Thomas Müller, l'attaquant de 35 ans. Va en effet quitter le club après 25 ans passés en Bavière, chez les jeunes d'abord, puis en équipe première.
Le tennis maintenant, ça y est, Yannick Sinner revient sur un court après sa suspension pour dopage.
Et oui, l'Italien numéro 1 mondial reprend la compétition chez lui, au Masters 1000 de Rome. Il a purgé ses 3 mois de sanctions, négocié et très controversé pour 2 contrôles positifs à un stéroïde anabolisant, contamination jugée accidentelle. Il va affronter l'Argentin Mariano Navarone dans le tournoi féminin, le numéro 2 mondial, la Polonaise Iga Świątek affronte en ce moment même l'Américaine Danielle Collins. Suivra un duel entre la Tunisienne Ons Jabeur et l'Italienne Yasmine Paolini.
Et la France va-t-elle obtenir un premier sacre mondial en MMA?
C'est toute la question et réponse la nuit prochaine à Montréal lorsque Manon Fiorot affrontera la Kirghize Valentina Shevchenko dans la catégorie des moins de 57 kilos de l'UFC, la plus connue des organisations de la discipline. La Niçoise de 35 ans attend ce moment depuis près de 2 ans et face à la détentrice de la ceinture, elle se voit clairement comme la favorite face à une combattante certes respectable mais déclinante.
C'est l'adversaire la plus dure que j'ai affrontée jusqu'à maintenant, mais voilà, on voit qu'elle est plus sur la fin. Ces 3 derniers combats, ils ont été beaucoup plus compliqués que les miens. Je pense que j'ai eu des victoires beaucoup plus écrasantes que les siennes, et elle, ça a été des combats compliqués quand même. Je pense que c'est une des premières fois où Valentina n'est pas favorite, et c'est moi la favorite pour ce combat-là. C'est juste un combat de plus parce que je crois que tous mes combats, j'ai toujours été favorite. Non, pour moi, ça change rien. Je me vois gagner ce combat quoi qu'il arrive, et j'aime bien en fait le fait d'être favorite. Je préfère ça.
Manon Fiorot avec Sofiane Amazian, combat contre Shevchenko assure aux alentours de 4h du matin, heure française, la nuit prochaine. Un autre combat de boxe, cette fois, pourrait permettre à Souleymane Sissoko de s'offrir une chance mondiale en WBC chez les poids welter. Le français monte sur le ring ce soir à Malabo, en Guinée équatoriale, pour une demi-finale contre le lituanien Egidius Kavalioskas. Le vainqueur deviendra le challenger officiel pour la ceinture mondiale actuellement détenue par l'américain Mario Barrios. Et puis, la deuxième étape du Tour d'Italie cycliste sans Tadej Pogacar, tenant du titre, et sans Jonas Vingegaard par exemple. Un contre-la-montre individuel de 13 km autour de Tirana, la capitale albanaise, ville de départ cette année. C'est le Danois Mats Pedersen qui enfilait hier le premier maillot rose.
C'était le journal des sports de Christophe Diremzian. Nous vous en parlions il y a quelques minutes. Les dirigeants français, allemands, polonais et britanniques sont à Kiev ce samedi pour une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après plus de 3 ans de guerre, un déplacement historique pour l'Europe de la défense. Et puis, ces dirigeants proposent donc un cessez-le-feu de 30 jours à partir de lundi en Ukraine. Notre invité, Jean de Glignasti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, le dernier, Géopolitique de la Russie, aux éditions Erol. Ce cessez-le-feu complet de 30 jours, est-ce que on peut y croire? Est-ce que cela peut aboutir?
Je ne crois pas vraiment. D'abord parce que les Russes, de toute façon, ont un dialogue séparé avec les Américains, et qu'actuellement, ça discute ferme du côté américain. Les Européens se présentent en appui de la position américaine. Comme Trump a rappelé il y a 2 jours qu'il demandait un cessez-le-feu et pour 30 jours, les Européens viennent en appui en disant si ce cessez-le-feu n'est pas appliqué par les Russes ou accepté par les Russes, nous allons prendre des sanctions massives. Ce qui est un petit peu plus que ce que... Mais enfin, c'est à peu près ce qu'a dit... Ce qu'a dit Trump en disant il faut que les Russes acceptent nos propositions.
Ouais, les Européens sont en quelque sorte encore à la périphérie de la négociation.
Ils sont encore à la périphérie de la négociation, en effet, mais ils rentrent dedans petit à petit. Mais ils rentrent dedans sur une position ferme de départ de Trump, donc ils renforcent la main de Trump vis-à-vis des Russes, mais les Russes ne voudront négocier qu'avec les Américains, et de toute façon, ils ne voudront pas donner l'impression d'avoir cédé à un ultimatum.
Et justement, les Européens, on ne va pas faire toutes les déclarations une par une, mais il y a eu notamment Emmanuel Macron et Friedrich Merz qui ont évoqué un éventuel durcissement des sanctions contre la Russie. Est-ce que cela peut vraiment avoir un effet sur Moscou ?
Ben vous savez, il y a à peu près 25 000 sanctions déjà prises contre la Russie. La vraie sanction, elle échappe en fait aux Européens,
c'est laquelle ?
Un peu moins aux Américains, c'est en fait la baisse du prix du baril le Brent a atteint en descendant 49 dollars le baril il y a 2 jours. Si vous retirez entre 5 et 10 dollars pour l'Oural, c'est-à-dire le pétrole produit par les Russes, à ce moment-là, les Russes vont rentrer dans un cycle baissier, ils auront de plus en plus de mal à financer leur guerre. Donc ça, c'est un argument fort. Mais des sanctions supplémentaires, on ne voit pas très bien ce que ça pourrait être, sauf des sanctions secondaires, et on sait que l'Europe a été... Alors, sanctions secondaires, ça veut dire qu'on va punir les États qui font du commerce ou qui achètent du pétrole à la Russie. Mais on sait que les Français, enfin les Européens en général, sont relativement réticents vis-à-vis de ces sanctions secondaires. Les Américains, eux, ont moins de scrupules.
Oui, on a donc du mal à voir comment d'éventuelles sanctions pourraient être un levier. Il y a la question donc de sanctions contre la Russie, aussi la question des garanties que pourraient apporter les Européens à l'Ukraine. Est-ce que ça, il y en a suffisamment aussi pour garantir la sécurité du territoire ukrainien s'il devait y avoir un éventuel cessez-le-feu, ce qui est encore très hypothétique ?
Alors, les Russes s'opposent à l'intervention de pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire en fait quasiment toute l'Europe, toute l'Union européenne, à la participation de ces Européens ou aux garanties de sécurité. Donc, ils ne veulent pas de stationnement de troupes européennes en Ukraine. Alors maintenant, on peut toujours installer des forces de surveillance et de réaction dans les pays limitrophes de l'Ukraine. Là, ça sera un accord bilatéral avec chacun des pays, et là, ça sera possible. Mais pour l'instant, comme vous le dites, on n'en est pas là.
Oui, on a du mal à voir ce qui peut faire éventuellement bouger la Russie. Quels seraient les leviers de la communauté internationale pour éventuellement faire avancer, débloquer ces négociations avec Moscou ? Est-ce qu'il y en a encore qui n'ont pas encore été activées ?
Ben, les Russes, pour l'instant, espèrent qu'il y aura une sorte de déconnexion, un découplage entre la volonté américaine de normaliser leurs relations économiques et politiques avec la Russie et le processus de paix en Ukraine. Donc ce découplage, il s'éloigne parce que Trump a déjà manifesté sa mauvaise humeur à plusieurs reprises, et donc la normalisation que les Russes espèrent avec les Américains risque d'être remise en cause par leur refus d'appliquer les propositions américaines. Donc c'est là la véritable pression, elle est dans les mains des Américains et de personne d'autre.
Eh bien, on suivra donc l'évolution de cette situation. Merci beaucoup Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On rappelle votre dernier ouvrage, Géopolitique de la Russie. C'était l'un des sites de l'horreur nazie. Libéré par les Alliés, il y a 80 ans, le camp de concentration de Gusen, dans le nord de l'Autriche, au cœur d'une cérémonie de commémoration ce samedi. 71 000 personnes y ont été déportées, dont beaucoup de Polonais. Plus de la moitié y sont morts. C'est donc le camp le plus meurtrier d'Autriche, mais il est tombé depuis dans l'oubli. Notre correspondante Isorias s'y est rendue.
Érigé comme camp annexe du camp de concentration de Mauthausen, Gusen sera le plus meurtrier des camps autrichiens, surnommé l'enfer des enfers en raison des conditions de détention extrêmement dures. Mais on est surpris en arrivant à Gusen par le peu de vestiges restants. On aperçoit quelques stèles, le four crématoire et à quelques mètres seulement de celui-ci, derrière un mur fin, plusieurs maisons. Cela car au lendemain de la guerre, ni les Soviétiques, qui occupèrent la zone jusqu'en 1955, ni l'Autriche, qui récupéra le terrain à cette date, n'ont voulu faire de Gusen un lieu de mémoire. Des parcelles du camp furent ainsi vendues, explique Bernard Mulleder, en charge du mémorial de Gusen.
À partir du milieu des années 50, il était possible d'acheter des terrains ici, ce que de nombreuses personnes ont fait. D'abord parce que c'était bon marché, et aussi parce que c'était pas très loin de la ville de Linz, où il y avait du travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent ici depuis deux ou trois générations. Cela veut dire que pour eux, cet endroit est devenu leur foyer, d'une certaine manière. Mais bien sûr, l'histoire nazie du lieu reste là.
Renate Herbst s'est rendue de nombreuses fois à Gusen avec son père, qui y fut déporté. Il est décédé en 2020, mais elle continue à 76 ans à faire ce pèlerinage mémoriel. Et chaque fois, elle revoit son père se recueillir dans ce lieu où trop peu d'éléments, dit-elle, rappellent les milliers de victimes.
Je pense qu'il voulait s'y rendre pour ne pas oublier, parce que l'homme a tendance à refouler les mauvaises choses. Il ne parlait pas de ce qu'il ressentait, mais je vois encore cet homme, petit et mince, se tenir voûté et laisser couler ses larmes. Moi, je ressentais moins de la tristesse que de la colère et de l'incompréhension.
En 2021,
l'Autriche a enfin pu racheter certaines parcelles du camp d'importance historique, notamment celle où se trouvait la place d'appel. Un concours à échelle européenne pour la conception d'un nouveau mémorial doit se terminer cet été. Il sera construit ces prochaines années. Si Renate Herbst salue ce projet, elle regrette le fait que son père ne le verra jamais concrétisé, car tout cela vient trop tard.
Il n'y a plus personne, tout le monde est déjà mort. Alors qui va s'y rendre pour vraiment commémorer les victimes? Une poignée de personnes. Mon père dirait sûrement que si déjà 5 personnes pensent différemment après, c'est déjà ça. Ce serait pour moi aussi, bien sûr, une satisfaction si cela ressemblait un peu plus à un mémorial qui commémorerait vraiment les victimes. Et j'espère devenir aussi indulgente que mon père l'est devenu avec l'âge.
Le nouveau mémorial devrait être achevé en 2031. Isorias, Vienne, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site rfi.fr.
Vous écoutez RFI Midi.
Quand on pense aux conséquences des taxes douanières aux États-Unis sur les automobiles européennes, on pense peut-être que la première victime, ce sera l'Allemagne. Dans la pratique, il s'agirait en fait de la Slovaquie. C'est en tout cas ce qu'annonce une enquête de la banque ING installée aux Pays-Bas. Les explications de Marina Mielzarek.
Alors il faut se concentrer un peu pour comprendre le paradoxe. Pourquoi est-ce que l'Allemagne, premier fabricant européen de véhicules, premier exportateur aussi vers les États-Unis, souffrirait-il moins des tarifs douaniers que la Slovaquie ? Eh bien parce qu'il s'agit de pourcentage et pas de volume. La Slovaquie est un pays qui consacre toute son industrie à l'automobile. Volkswagen, Peugeot, Citroën, Jaguar, Land Rover profitent de ce modèle unique en Europe avec des usines multifonctions. Oui, parce que sur un site slovaque, vous trouvez tout sur place. De quoi fabriquer l'enveloppe du véhicule, mais aussi ses accessoires, les phares, les vitres, les composants. Avec aussi, et c'est là la grande valeur ajoutée, des équipes ultra formées. Nouvelles technologies, écoles d'ingénieurs, centres de recherche et de développement. 80% des véhicules sont faits pour les ventes aux États-Unis. Pour le dire plus familièrement, la Slovaquie a mis tous ses œufs dans le même panier. Alors forcément, comme le souligne Bernard Julien, directeur du GERPISA, le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile, dans une économie où tout est lié, on paye la moindre augmentation des droits de douane très cher.
comme il n'y a pas d'usine française, très peu d'usine italienne, très peu d'usine espagnole, on tombe sur Volkswagen, usine slovaque. L'usine anciennement faisait des toutes petites voitures et puis depuis quelques années maintenant, le groupe Volkswagen a décidé d'y faire des modèles très gros et très chers, hein, parmi lesquels on trouvera la Porsche Cayenne, un certain nombre d'Audi très haut de gamme, etc., qui partent aux États-Unis pour une large part d'entre eux. En même temps, les modèles qui traversent l'Atlantique sont des modèles très chers. S'ils sont très chers, les clientèles sont peut-être ou sont très certainement même moins sensibles aux augmentations de prix. La Slovaquie va beaucoup souffrir, c'est à la fois vrai. En même temps, il faut attendre pour voir l'Europe. Elle a effectivement une tradition exportatrice assez forte, à laquelle certains, les Allemands en particulier, tiennent beaucoup plus que d'autres. Et je pense qu'effectivement, l'orientation plutôt auto-centrée sur l'Europe devrait logiquement être la conséquence commerciale et stratégique tirée de la nouvelle situation. Hein, autrement dit, je ne crois guère en une alternative chinoise à la fermeture de l'espace américain du Nord.
Les États-Unis viennent d'alléger la facture en renonçant à taxer les pays qui fabriquent des pièces détachées pour des véhicules fabriqués aux États-Unis, au Mexique ou au Canada.
C'était la chronique transport de Marina Milzarek. De la musique maintenant et un groupe à l'affiche du festival Focus Wales ce week-end au Pays de Galles. Il s'agit d'Afro Cluster, un collectif de Cardiff qui fait danser les genres et les cultures depuis plus de 10 ans. Sur scène ce week-end, il joue The Rich, son tout premier album, concentré de groove et d'engagement, à l'image du groupe José Marino.
Afro Cluster est un collectif qui mélange l'afrobeat, le jazz et la musique ouest africaine, mais aussi le hip-hop.
Toomy Williams est la voix et l'âme d'Afro Cluster depuis 2011. Afro Cluster, un collectif venu de Cardiff, 9 musiciens et autant de nationalités que de groove. Il mêle funk des années 70, afrobeat, jazz et rap. Sa musique, c'est pas juste un son, c'est un dialogue entre les continents, entre les époques, entre les peuples.
Afro Cluster, c'est une conversation vivante, je dirais, un échange entre plusieurs cultures. Il s'agit de partager des expériences vécues, de mon parcours personnel, du Nigeria jusqu'au Pays de Galles, en passant par les Caraïbes et l'Angleterre. Quand nous nous réunissons dans la création artistique, c'est un peu comme un carrefour culturel. Il y a une vraie énergie. Et cela se reflète dans les performances, dans la lumière. L'amour de la musique, pour moi, c'est ça. Aimer et se faire aimer.
Dans un monde qui construit des murs un peu partout, Afro Cluster fait exactement l'inverse. Il fabrique des ponts avec son style métissé, joyeusement engagé. Et au festival Focus Wales, c'est simple, ça réveille tout, la foule et même les consciences.
Dans notre groove, il y a un message de respect pour les migrants et un appel à l'unité. Notre musique se présente aussi comme un défi politique. Mais est-ce que les grands de ce monde sont prêts à un échange culturel ? En attendant, nous apportons une réponse avec notre musique et une ambiance festive à ce monde chaotique, et c'est déjà le message.
Faire bouger les têtes, c'est une chose, se faire entendre quand on fait une musique aussi libre, c'en est une autre. Alors Toomy Williams s'adapte.
Le marché du jazz, la scène, le groove, c'est comme le jeu vidéo Resident Evil. Chaque année, une nouvelle version, un nouveau défi, mais on y revient, parce que c'est ça être fidèle à un son, à une vibration. Ce son-là, il nous reflète, c'est notre miroir, il dit qui on est. Notre parcours, nos passions, tout cela construit notre identité de groupe. C'est l'expérimentation de la liberté. Face au chaos, on propose la lumière. Et on parle, oui, on parle vraiment au monde, à ceux qui aiment.
Afro Cluster ne cherche pas à rentrer dans les cases, il les fait sauter en musique. José Marino, Pays de Galles, RFI. At the back end of a binge, Kamasutra style sex when we started this flame. Complex like dopamine, a buzz so discreet. Didn't take notice of the sea. Feeling what I lacked was a weakness. Trying to be a jack of all trades.
Le groupe Afro Cluster, c'est la fin de cette demi-heure ensemble. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Mathis Limano pour Afrique Midi.
Géopolitique.
La scène internationale est marquée par des discours et des actes violents, illustrés par l'invasion de l'Ukraine, les manœuvres chinoises autour de Taïwan et les actions du président Trump envers l'Ukraine, le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ces intimidations exercées par les États-Unis ou encore la Chine s'étendent du Proche-Orient à l'Asie, créant un panorama inquiétant. Le professeur Frédéric Charion nous livre son regard dans Géopolitique, proposé par Marie-France Satin, tout à l'heure à 17h10.
RFI.